Comme Stéphane l'a dit, donc je vais vous montrer deux exemples de formation que j'ai pu mener sur un établissement en particulier. Donc pour vous présenter, avant d'arriver à ces formations, je vais d'abord évoquer dans un premier temps la série de circonstances qui ont fait que j'ai pu mener ces formations sur un établissement en particulier, parce que je pense que ça permet déjà de comprendre comment on peut articuler déjà les questions de pilotage et la mission de professeur, formateur académique REP-REP+. Avec le contexte beaucoup plus local de l'établissement dans lequel j'enseigne. Donc tout d'abord, il y a un contexte académique qui est lié, qui est spécifique peut-être à l'Académie de Besançon, sur la mission des formateurs REP-REP+. Qui ont été assignés. Donc on est quelques formateurs à avoir chacun un REP+, puisqu'il n'y a pas beaucoup de REP+ sur l'Académie de Besançon, et deux ou trois REP dans lesquels on va intervenir sur la formation. Et comme c'est la première année que l'on travaille en tant que formateur REP+, cette année, notre mission, c'est surtout centrée sur les REP+. Les REP, pour certains, étant encore en train de rédiger projet de réseau, voilà. Et donc, avait autre chose à faire pour l'instant que de nous recevoir en formation. Donc, ça sera pour les années d'après. Ce qui fait que j'ai pu me consacrer pleinement à ma mission de formatrice REP+, sur le REP+, dans lequel, ou en plus, j'enseigne. Car je suis en même temps, sur le contexte plus local, enseignante d'histoire-géographie, et j'ai donc encore trois classes en charge. Et en plus de la décharge de professeur formateur REP+, la principale du collège, Madame Vurlin, qui voulait que j'ai un peu plus de temps à consacrer pour les formations, entre autres, sur le REP+, ayant peur que je sois happée par d'autres établissements, m'a donné 4 heures de professeur référente. 4 heures de professeur référente, sachant que dans le collège, il y a un poste de professeur référent qui était un poste à temps complet, qui a été morcelé en plein de petits postes comme ça, avec des missions données à différents collègues, dont la mienne sur 4 heures. Et ces 4 heures de professeur référente m'ont été données pour coordonner le dispositif d'accompagnement continu des 6e, qui dans le REP+, a été mis en place en essayant d'appliquer le plus possible la prescription, sachant que ça posait pas mal de soucis d'organisation. Si on veut avoir les élèves de 6e dans le collège tout le temps, ils vont forcément avoir des heures où ils ne sont pas en classe et ils vont se retrouver en études. Donc elle voulait que je coordonne ce dispositif pour organiser ces temps d'aide aux devoirs. On a décidé qu'au lieu d'être en études, ils seraient dans ce qu'on va appeler l'aide aux devoirs. Coordonner aussi, donc faire du lien entre les gens qui participent à ce dispositif, et puis de plus en plus, au fur et à mesure de l'année, de co-intervenir en fait avec des assistants pédagogiques qui ont été désignés pour accompagner parfois des classes entières sur ces temps d'aide aux devoirs. Donc voilà, cette mission de formatrice, de professeur référente sont différentes mais complémentaires. Elles se nourrissent l'une l'autre, et sans compter celle d'enseignante, moi qui me permet d'être au contact au quotidien en plus avec mes élèves, et notamment, je suis professeure principale de 6e, du coup, ça me permet de gérer en heure de vie de classe la question des devoirs aussi, et de faire du lien avec mes collègues dans l'équipe des professeurs principaux de 6e. On en a fait une question centrale de nos préoccupations et qui est traitée en heure de vie de classe, afin de faire le lien entre ce qui se passe en aide aux devoirs, ce qui se passe en classe, ce qui se passe en conseil de classe aussi, ce qui va être relevé comme difficulté des élèves, et de pouvoir réfléchir et discuter de manière à pas, à contourner ce problème de l'externalisation du travail. Donc voilà. Donc on est en pleine réflexion là-dessus, mais je trouve que ces fonctions-là que j'ai, hein, ces différentes missions que j'ai, ça peut sembler être assez éclaté, et en même temps sont très complémentaires et permettent, je pense, d'avoir une certaine efficacité dans l'établissement. Voilà. Donc concernant l'organisation de l'accompagnement continu des 6e au collège Loublazère, qui est un collège de la ville de Montbéliard, dans le nord de la Franche-Comté, Je vais vous préciser un petit peu l'organisation que l'on a retenue, sachant qu'on a travaillé là avec ma principale et le principal adjoint qui lui organise plus les emplois du temps, parce que ça a été un vrai casse-tête en début d'année sur qui on met, enfin comment on organise ces emplois du temps, où on met les élèves et avec qui. Et là, bon, de toute façon, vous connaissez toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Donc, on a essayé de réaliser une sorte d'emploi du temps avec tous les trous qui étaient dans l'emploi du temps des élèves, en évitant le plus possible de les faire venir trop tôt. Même si là, du coup, on n'applique pas complètement la prescription. On s'est dit qu'on va surtout récupérer les heures captives des élèves, c'est-à-dire celles en deuxième heure, en troisième heure, où ils sont pris, ou alors les heures où certains élèves sont en option et l'autre moitié de la classe se retrouve en études. Donc on va faire de l'aide aux devoirs sur ces temps-là. Voilà. Ce qui peut donner quelques petites inégalités quant à l'accompagnement des élèves en aide aux devoirs. Donc voilà, on a, là je vous montre un exemple d'emploi du temps, et puis on s'est ciblé donc les sixièmes, et puis en rouge vous avez les types de personnes qui vont accompagner. Donc le plus possible, on a demandé à des professeurs rémunérés sur de l'accompagnement éducatif d'encadrer ces temps d'aide aux devoirs, puisqu'il y avait pas mal de collègues qui étaient volontaires, mais on n'en avait pas assez parce que leurs emplois du temps font que on peut pas les mettre toujours en face d'élèves, et du coup les assistants pédagogiques, voire les AED, ont souvent fait office de bouche-trou, c'est-à-dire qu'on les met là, qu'ils ont été mis là. Bon, moi, j'ai pas la main aussi sur les décisions qui sont faites. Ce qui, moi, me dérange, je pense que l'assistant pédagogique, c'est pas son boulot d'être devant des classes entières, mais de toute façon, bon, voilà, il a fallu, ils ont été mis là, et du coup, il a fallu réfléchir à comment on va les accompagner, parce que si déjà un enseignant a du mal à se retrouver en aide aux devoirs avec des élèves, je pense que pour les assistants pédagogiques, c'est encore plus compliqué. Donc des configurations très différentes au collège, avec des classes entières parfois, donc avec un seul adulte qui les encadre, que ça soit un enseignant ou un assistant pédagogique, parfois des demi-groupes classes, c'est déjà un peu plus confortable pour les accompagner, et parfois même seulement 5-6 élèves qui vont se retrouver en aide aux devoirs. Donc voilà pour le dispositif. Donc on s'organise pour faire des bilans. Je en tant que coordinatrice du dispositif, je fais des bilans, je participe au conseil de classe et j'essaye au maximum d'informer les gens sur comment ça évolue. Et du coup, ce temps-là, à la fois organisationnel, de suivi du dispositif, de coordination, me permet aussi d'observer ce qui se passe et du coup de construire ces formations. Alors. Non, j'ai un petit problème, je reviens là. Voilà. Donc je vais vous présenter deux exemples de formation. Avant d'enchaîner sur ces formations, je me suis posé la question qu'on s'est posée hier, mais j'ai déjà été pas mal formée à l'IFE, donc je réutilise les fonctionnements. C'est quoi le problème numéro un pour la formation numéro un? Le problème numéro un qui s'est posé, c'est les devoirs des élèves sont souvent mal écrits ou pas écrits du tout dans les agendas. Ça, j'ai mis entre guillemets, c'est des paroles que tiennent les collègues quand on commence un peu à parler avec eux des devoirs. Les élèves ne font pas leur travail à la maison, du coup. La question, c'est au fait, comment font les enseignants pour faire noter les devoirs aux élèves? En discutant un peu avec mes collègues, je sais que, et en écoutant un peu aussi les travaux de la recherche et ce qui se fait aussi sur Néopass, je sais que pas mal des devoirs, on l'a vu hier, sont donnés à l'arrache à la fin du cours ou sans forcément qu'il y ait une réflexion sur le moment où on va les donner. Donc, c'était déjà un premier point à partir duquel je me suis dit, avec certains de mes collègues, qu'il serait intéressant de travailler. Donc, un point très précis. Pour moi, on ne peut pas travailler sur les devoirs d'une manière générale. Il faut aller se centrer sur quelque chose de plus précis, quitte à soulever d'autres questions, amener d'autres de réflexions au cours de la formation et prévoir dans un parcours de formation sur l'année et voire plus d'aborder d'autres questions qui viendront. Donc, je vais vous présenter d'abord la première formation, donc former les enseignants. En ramenant la question des devoirs au cœur même des pratiques de classe et en amenant les enseignants à s'interroger sur le travail qu'ils donnent à leurs élèves et surtout sur la manière dont ils le font. Donc ça sera la première formation que je vous présenterai. Et la deuxième que j'ai pu mener, c'est à partir du problème qui arrivait aux assistants pédagogiques et puis à moi-même, puisque j'ai de l'aide aux devoirs aussi avec une classe entière, c'est comment on fait. Enfin, on entend souvent, c'est quasiment impossible de mener de l'aide aux devoirs avec une classe entière. C'est clair que c'est super compliqué. Mais comme on n'a pas le choix et que il va falloir toute l'année le faire et survivre, comment est-ce qu'on va faire pour le rendre efficace et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place pour que, à l'intérieur de cette classe, on puisse non pas s'occuper de tout le monde, mais c'était la question qu'ils disaient, est-ce qu'il faut absolument s'occuper de tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des élèves qui peuvent travailler tout seuls? Donc voilà. Donc on a, j'ai monté une deuxième formation, donc ce sera la formation numéro 2, former les accompagnants de l'AAD, donc AAD c'est l'aide aux devoirs. J'ai mis accompagnants parce que là je vais avoir des enseignants comme des assistants pédagogiques et des AED. Donc on a des postures différentes et donc on va se poser la question notamment des postures de l'accompagnant. Est-ce que accompagner, aider, refaire le cours, faire à la place d'eux, ça va être toutes des questions qui vont être soulevées durant cette formation. Alors je vous présente la première formation que j'ai faite. Donc je vous ai remis à travers ce petit schéma le montage de ma formation, comment est-ce que je m'y suis prise pour la mettre en place. Donc je suis partie, comme je vous l'ai dit, premièrement de c'est quoi le problème, donc identifier le premier problème et le sujet sur lequel on va pouvoir travailler dans la formation. Et puis moi je travaille beaucoup à partir de la vidéo et notamment je m'appuie beaucoup sur un travail que je mène avec des enseignants dans ce collège depuis maintenant 4 ans. À peu près, sur un groupe d'échange de pratiques où on travaille sur des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Alors au départ, pendant 2 ans, à partir des vidéos Néopass, depuis 2 ans, on travaille à partir de vidéos que je réalise dans les classes du collège. Donc là, je sais que déjà j'aurai quelques enseignants que je connais bien qui accepteront d'être filmés et de travailler, de s'emparer de cette question-là. Et d'enseignants qui joueront le jeu, qui aussi ne feront pas quelque chose de parfait juste parce que je viens en cours, qui accepteront parce qu'ils savent aussi que dans le groupe, il y a une bienveillance qui s'est installée et qu'on sera là pour parler de nos problèmes de métier et pas se juger et pas vérifier si on est des bons ou des mauvais profs. Donc voilà, j'ai un petit groupe de collègues que je peux aller assez facilement filmer et récupérer des données. Donc j'effectue ensuite le tournage en classe. Donc là, j'avais 3 professeurs qui ont été volontaires, et donc sur un cours de 6e, hein, puisqu'on travaillait là au départ plus sur les 6e. Donc je suis allée les filmer, et après j'ai aussi photocopié, mais ça m'est venu pendant le fait de pendant que je filmais, photocopié les pages d'agenda d'élèves de 6e aussi, juste à la fin du cours, hop, on récupère tous les agendas, on les photocopie pour voir ce qui s'est passé entre ce qu'on voyait sur la vidéo, et puis aussi ce qu'on peut pas voir, on voit pas tous les élèves en train de noter leurs devoirs. Donc à partir de ces sources-là, j'ai organisé des entretiens d'autoconfrontation, donc c'est la quatrième étape, parce que, on l'a déjà dit hier, vous le savez, travailler sur le travail réel des enseignants, il ne suffit pas de juste moi être dans la classe et observer. Il faut que je sache aussi qu'est-ce que voulait faire l'enseignant, qu'est-ce qu'il était en train de faire, à quoi il pensait. Il y a des choses qui m'échappent, même si moi je commence à avoir un peu l'habitude, il y a des choses qui nous échappent. Donc ces entretiens d'autoconfrontation, ils me permettent à moi de mieux préparer ma formation. J'ai l'idée en tête, mais dans l'entretien d'autoconfrontation, il y a des choses qui vont être dites avec l'enseignant, et ça va me permettre un peu de voir sur les trois collègues que j'ai pu filmer et les 3 entretiens d'autoconfrontation que j'ai pu faire, quels sont les similitudes, quels sont en gros les styles de prof qui peut y avoir, les manières de passer les devoirs, les différentes manières de faire, et quels sont les objectifs que les collègues avaient derrière. Ça me permet aussi à moi de faire en même temps de la formation, c'est pas que rechercher, c'est aussi former et avec les collègues mettre le doigt parfois sur des choses qu'eux n'avaient pas vues et dont ils n'avaient pas conscience. Du coup c'est intéressant et pour eux, et c'est pour ça qu'ils jouent le jeu aussi de l'entretien d'autoconfrontation, parce que ça leur prend du temps, hein, c'est sûr, du temps en plus, mais ils savent aussi que ça leur apprend des choses et que ça leur permet de voir des choses qu'ils n'avaient pas vues eux, d'en prendre conscience, et en plus avant le groupe d'échange de pratique, parce qu'il est important qu'on sélectionne ensemble les passages sur lesquels on va travailler. Aussi dans le contrat qu'on a entre nous, c'est qu'est-ce que tu as envie de montrer aux collègues ou pas, parce qu'on n'a pas envie de tout montrer sur toute la séquence de classe, qu'est-ce que tu acceptes de montrer aux collègues et qu'est-ce que tu acceptes de voir discuter. Alors c'est là que intervient après, donc une fois que j'ai recueilli toutes ces sources-là, l'écriture du scénario de la formation. Moi je m'oblige à construire les choses et à avoir un scénario qui est quand même plutôt bien ficelé, tout en laissant une part d'improvisation. Donc je pourrais vous le transmettre si ça vous intéresse. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Donc je le fais sous forme de fiche. Dessus, je cible toujours donc le public visé, les compétences des enseignants travaillées. Je le mets en lien avec compétences des enseignants travaillées. Donc je reprends le référentiel des compétences. Donc ça, je vous le transmettrai. On va peut-être pas prendre le temps de tout lire, hein, mais quelles sont les compétences que je travaille, et je mets en lien aussi avec le référentiel de l'éducation prioritaire. Parce que après, il y a un minimum de comptes à rendre aussi à l'institution, et on va me demander aussi ben, quelles sont les compétences que je travaille. Donc ça, c'est un document que je peux aussi fournir aux pilotes qui ont créé un site aussi pour mettre les formations qui sont mises en place dans l'établissement. Rendre compte, et puis aussi pour que moi ça soit cohérent avec ce qu'on attend des collègues, pour leur présenter aussi voilà ce qu'on va travailler et quel est le lien, montrer que c'est en lien aussi ben, avec le référentiel d'éducation prioritaire. C'est aussi une manière de leur permettre de se l'approprier, sinon ils restent de côté. Moi ça m'aide pas à le concevoir, non, mais ça m'aide à, ça permet de rendre compte plutôt, et aussi d'informer les collègues de la formation, les stagiaires, sur voilà qu'est-ce que je vise à travers cette formation que je vous propose. Voilà, puis après, bon, c'est un peu long au début à faire, mais après, c'est toujours les mêmes entrées, donc ça prend pas plus de temps que ça, une fois que c'est une habitude. Voilà, donc je me prépare le déroulement, l'accueil, le contrat de confiance, donc je vais vous le présenter aussi. Et ensuite, j'introduis la séance par une problématique qui est annoncée clairement. Voilà ce sur quoi on va travailler. Donc le thème de cette séance, c'était faire noter les devoirs aux élèves, de la consigne de l'enseignant à l'agenda de l'élève. Et donc on allait travailler sur des pratiques d'enseignants du collège, sur la manière de faire noter les devoirs aux élèves de 6e, à quel moment du cours, comment, et ensuite aller sur les pratiques des élèves, que notent-ils, quelles conclusions en tirer, quel lien avec les constats de la recherche sur la question des devoirs. Et dans ma formation, je vais essayer d'articuler au maximum aussi ce qu'on a fait en classe avec l'état de la recherche sur la question, hein, faire des liens, et là ça me demande d'avoir au préalable, en même temps, enfin avant même les entretiens d'autoconfrontation, j'ai envie de dire, avoir lu pas mal de choses sur cette question-là, pour être au clair, moi, avec ce qui se fait dans le collège, mais aussi faire avancer les gens aussi avec des choses qui ont déjà été étudiées, pas besoin de recommencer tout à zéro non plus sur cette question-là. Voilà pour cet aspect-là. Donc, la formation, elle commence toujours par le rappel du contrat de confiance. J'en avais parlé un petit peu hier, mais je pense que c'est fondamental quand on commence à faire travailler les gens sur des vidéos, et là encore plus sur des vidéos qui ont été tournées dans le collège même. Donc ce contrat de confiance, il est un peu évolutif, on le fait évoluer en fonction de notre progression dans le groupe, mais en gros là il est devenu assez stable. Donc première chose, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de jugement sur ce qui est dit ou sur les pratiques de chacun. C'est pas facile, mais avec l'habitude ça marche. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, et c'est pas évident non plus de ne pas juger et en même temps d'exprimer quand même parfois son désaccord. Donc nous avons le droit de ne pas être d'accord, c'est même à partir de là que nous pouvons débattre, mais veillons à exprimer notre désaccord avec des explications et de la diplomatie. Le troisième point, et c'est un point important qui m'a valu parfois me faire taper sur les doigts plus haut, c'est le respect de la confidentialité qui est primordial. Au départ, j'avais pas mal de pression pour donner des comptes aussi sur ce qui se faisait dans ce petit groupe d'échange de pratiques, et donc ça n'a pas été évident de tenir bon et de dire que non, ce qui s'y passe et ce qui s'y dit, c'est important pour les collègues que ça reste confidentiel, surtout quand il y a des gens qui vont évoquer des situations difficiles ou un peu douloureuses en classe. Voilà, là-dessus, ce contrat de confiance, il est important, et il concerne les enseignants eux-mêmes qui n'ont pas à aller divulguer toutes les difficultés qui ont pu être évoquées dans le groupe, sachant que on s'autorise à sortir du groupe ce qui est du plus de l'ordre du pédagogique, voilà, de solutions ou de choses que l'on met en place, mais on n'est pas sur le personnel, ça c'est formel, on fait pas compte rendu là-dessus à qui que ce soit, même pas à des niveaux hiérarchiques, mais là-dessus la direction actuelle du collège est complètement dans notre sens, donc ça aide. Veillez à respecter l'anonymat des personnes qui ne sont pas présentes dans le groupe. C'est aussi quelque chose d'important. Évitez de taper sur un collègue ou de taper sur des élèves, et pas que ça soit du règlement de compte à l'égard de certains de nos élèves. Et donc c'était le point 5 qui arrive aussi. On ne s'appesantit pas sur le cas d'un élève. On n'est pas un conseil de classe, conseil de discipline et autres. C'est pas le but non plus. Hein. Si on est bienveillant à l'égard des enseignants, on l'est aussi à l'égard des élèves. Voilà. Alors, je vais avoir mon problème. Voilà. Donc, on commence toujours, et c'est, excusez-moi, la séance du groupe d'échange sur les pratiques, elle dure 1h30 à peu près. J'ai oublié de le préciser, 1h30, en général, on est 17h30 à 19h, puisqu'on n'a pas encore réussi à avoir dans notre REP plus du temps qui soit dédié en dehors, enfin, qui soit pas rejeté le soir après les cours. Et ça repose aussi sur du volontariat. Et ça, c'est un point important aussi. Ne viennent que les collègues, là, aujourd'hui, qui sont volontaires. Il n'y a pas d'obligation à le faire. D'autant plus que, pour l'instant, ce type de groupe se tenait le soir après les cours. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une... Alors, ce jour-là, sur ce groupe d'échange de pratiques sur les devoirs, on a eu un film qui a été tourné pour un projet, parce qu'on avait été primé sur les journées de l'innovation à Paris. Et donc, du coup, j'ai une vidéo que je peux vous présenter d'un montage qui a été fait et qui montre les différents aspects de ce groupe.
On va passer au film de Virginie. À mon avis, on se reconnaîtra beaucoup plus souvent dans ces situations-là.
Soit t'es là, soit t'es là-dedans. Non, non, ne bouge pas. Vas-y, finis. Vous prenez votre agenda pour demain. Vous lisez tout le compte et vous remplissez mon tableau doucement. Au revoir, Anaïs. Bonne journée.
Tout le monde se lève, en fait. Je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils vont le faire. Quand j'ai vérifié le lendemain, ils avaient à peu près tous, à part deux ou trois, je crois, fait leur tableau. Ils avaient tous lu le compte de Perrault.
Ce groupe est né de manière spontanée il y a 3 ans de cela, alors que le collège traversait une période relativement difficile en ce qui concerne la gestion des élèves. Et les enseignants ont éprouvé le besoin de se réunir pour échanger sur les difficultés rencontrées dans leur classe.
T'as la chance dans ta matière de les voir plusieurs fois dans la semaine. Ce qui fait que les devoirs que t'as donnés, c'est frais dans leur tête. Moi, je les vois une fois par semaine. Si je donne une consigne comme ça, mon activité de la dernière fois, elle date d'il y a une semaine. S'il y a eu des vacances, elle date d'il y a 3 semaines. Et voilà.
Il faut quand même qu'on rectifie un petit peu. T'as donné les devoirs une fois que ça avait sonné, mais la consigne avait déjà été passée avant, en fait, d'une manière qui est intéressante.
La consigne de ce que je suis en train de dire... Ils l'ont déjà dans leur classe, ils l'ont déjà marqué une fois en tant que consigne de cours. Donc en fait, ils la marquent 2 fois.
Pour préparer cette séance sur l'aide aux devoirs et notamment le moment où l'enseignant passe la consigne des devoirs en classe, je suis allée filmer 2 collègues qui étaient volontaires pour m'accueillir dans leur classe.
Allez, vous notez donc dans votre cahier de texte qu'il faut apprendre cette leçon qu'on vient d'écrire sur la guerre de Troie.
Tout ce qui est écrit là, là, c'est dans quelle matière
ça? Anglais.
Ça, ça, ça et ça.
Est-ce que tu arrives à distinguer?
Oui.
Et à la fin de la journée ou dans une semaine, tu te souviendras?
Voilà, c'est pour demain, mais...
D'accord.
Céline, qui, elle, passe ses devoirs en milieu de cours.
C'est assez systématique, on a toujours la réflexion, c'est la fin de l'heure alors, et puis ils commencent à ranger leurs affaires, même si on est au milieu.
Tu n'engages rien d'autre.
C'est vraiment un moment de transition entre deux activités, ça tombe en plein milieu de l'heure, du coup j'ai le temps de prendre le temps de...
Le laisser copier
ouais,
la leçon.
Ouais, copier la leçon, prendre les devoirs correctement, vérifier qu'ils sont bien pris et tout ça.
Si on arrive à anticiper suffisamment, j'aimerais bien tester le fait d'avoir les devoirs écrits dans un coin de mon tableau Velleda, pour le coup, là. Et ils savent que pendant l'heure, il faut qu'ils prennent les devoirs à n'importe quel moment. Puis à la limite, s'ils n'ont pas eu le temps pendant l'heure, ils le feront à la fin.
Chaque enseignant repart avec ce qui a fait sens pour lui, ce qui va lui permettre d'améliorer son efficacité au travail et à un peu mieux essayer de comprendre le fonctionnement de l'élève.
Donc là, ça vous donne un petit aperçu, en tout cas, du fonctionnement du groupe. Après, c'est très très rapide. Hein. Ils ont gardé juste certains passages sur 1h30. Bien sûr que les échanges ont été un peu plus, sont entrés un peu plus dans le vif du sujet. ça a le mérite au moins de commencer à questionner un peu ces pratiques qui sont données dans le collège. Et d'expérience, je sais aussi qu'après, les collègues, on discute pendant, mais on discute après. Et il y a tout un travail qui s'ensuit après, c'est en salle des profs ou deux par deux ou par affinité. Je sais que les collègues rediscutent, disent « Ah tiens, moi j'ai essayé autrement, ça a pas marché, ça a marché, etc. » Donc il y a le travail qui s'engage là, il est toujours prolongé. Alors pour le formateur, c'est on le voit moins, sauf si on est dans l'établissement, on sait que les collègues viennent nous voir et nous en reparlent. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là, ce travail qui est engagé, et c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Non, oui, je voulais vous montrer aussi alors un autre passage du groupe d'échange de pratiques qui là n'est pas pour le coup coupé, parce que je trouve que ça permet aussi d'aller un peu plus dans le vif des discussions qui ont été données. Donc là, c'est dans ce groupe d'échange de pratiques, cette fois-là, on avait une professeure des écoles qui était présente et qui est notamment professeure référente sur le cycle 3, donc qui fait la liaison école-collège, et qui pouvait amener son regard de prof des écoles sur la manière de passer les devoirs. Et donc là, il y avait une discussion sur à ce moment-là sur moi, quand je suis enseignante, elle fait aussi des cours d'allemand encore sur le collège au sixième. Voilà, je donne mes devoirs en début de cours. Et ça commençait à emmener des discussions qui, là, sont des discussions, je dirais, avec des différences de culture professionnelle entre le premier et le second degré, qui étaient assez intéressantes. Donc, alors, il est un petit peu long, j'ai pas pu faire de découpage, mais je pense qu'il peut être intéressant et qu'il peut soulever aussi des questions après ou des remarques de votre part.
Une représentation.
Le son est moins bon.
Ça va plus loin que le mot.
Je pense que le vocabulaire, ça pose quand même un gros problème. Souvent, les élèves vont savoir différencier parallèle et perpendiculaire dans le tracé, mais après, pour nommer, nous en élémentaire, on a ce problème-là. Souvent, quand même, c'est un problème de vocabulaire. Ce qu'on fait en élémentaire, c'est qu'on liste. Par exemple, là, je vois en allemand pour les devoirs, puisque là, je vous écoute parler depuis tout à l'heure, donc avec la sonnerie et le fait de se presser et les gamins qui plongent dans le sac en prenant effectivement l'agenda. En élémentaire, souvent, on commence par dire « sortez vos agendas ». Alors peut-être que ça, c'est un réflexe qui fait que les gamins, les devoirs, paf, je vais chercher mon agenda.
Avant de commencer la séquence, c'est ça ?
Alors, soit on le fait avant, soit on le fait après. Moi, par exemple, en allemand, là, comme j'interviens ponctuellement, je ne suis pas l'enseignante de la classe, je ne les ai pas toute la journée. Ce que je fais, j'explicite les devoirs avec les élèves dès le début de la séance. Donc, je donne mon plan de cours. Aujourd'hui, on va travailler ça, 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 ça. Je donne des petites... Donc, j'ai préparé mes devoirs. Et puis, si je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envisagé à ce moment-là, j'enlève le superflu et je le dis aux élèves. Donc ça, on n'a pas le temps de le travailler. Le point numéro 5, hop, on le barre. Mais ils savent déjà dès le départ ce qu'ils auront à travailler pour la fois prochaine. Et je parle de compétences. Vous devrez connaître tel mot de vocabulaire. Il faudra savoir se présenter en allemand, par exemple. Et donc, j'explicite vraiment. C'est pas simplement réviser la leçon d'aujourd'hui, parce que ça, pour des élèves de CM2, ça ne veut pas dire grand-chose.
Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'une collègue qui n'a pas pu venir là a essayé ça, elle réfléchit aussi pas mal sur les devoirs, et elle s'est rendue compte que quand elle met apprendre la leçon d'histoire-géo, même si elle est expliquée en classe, en général... ça reste flou pour eux. Donc elle s'est dit maintenant, au lieu de mettre apprendre la leçon d'histoire géo, je leur mets apprendre telle carte, il faudra savoir localiser telle et telle chose, savoir réexpliquer tel et tel mot, etc.
Tout à l'heure, là, par exemple.
Elle est en train de tester, voir si ça change quelque chose.
On avait un.
Oui, mais elle se limite quand même, hein, du coup. Mais
oui,
ça prend à peine plus de temps et en même temps, elle veut voir si, est-ce qu'il y a de l'efficacité là-dessus. Après,
on avait
encore une question. Sur les agendas, en plus, sur les agendas qu'on circulait, j'ai vu ce que j'ai mis. J'ai vu capable de repérer Mumbai.
Et tout à l'heure, en donnant les devoirs, donc il y avait une petite comptine à connaître par cœur, donc en langue allemande, et il y avait, on a
tout ça.
Et quand tu.
Et du coup, ça dépend vraiment, je peux pas. C'est pour ça qu'ils sont forcément à la fin.
Quand tu prépares ta séance, t'as pas une liste de réponses attendues.
J'en ai forcément une, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être surprise. Si je suis pas surprise, ça aucun.
Après, c'est sûr qu'il faut faire au cas par cas.
Oui, mais ça n'empêche pas, même si c'est à la fin de l'heure, de toute façon, tu as quand même une grande part d'improvisation, mais je pense qu'avec l'expérience, tu sais. Et c'est ce que tu avais fait dans la consigne que tu avais passée, c'est quand même assez clair. Il oui. savait, vous allez lire le conte Les Fées, et puis après, c'est exactement du même style là, sauf que toi, c'est plutôt vers la fin, ou dans le cahier, pendant la leçon, que la consigne est mettée. Moi, je trouve que c'est pas complètement différent. C'est la seule différence, ce serait si tu avais mis
au début, je me plante. Parce que je sais pas où on va arriver. Je sais où on va.
Moi, je me dis pourquoi on n'est pas obligé de le faire au début. Je pense qu'il faut l'adapter à nos manières de faire, à la part d'improvisation que chacun a, suivant sa matière, suivant sa personnalité aussi.
Après, quand on teste plutôt, parce que moi, je l'ai déjà fait, d'avoir écrit au tableau quand, par exemple, deux classes identiques s'enchaînent. Genre, je viens de noter mes devoirs avec mes quatrièmes, puis j'ai une autre classe de quatrième qui arrive. Plutôt que tout effacer, machin, et je leur dis, vous recopiez les devoirs, et puis on, comme ça, à la fin de l'heure, on sait quand ça sonne, ça sonne. Le problème, c'est que là, quand ce genre de situation arrive, on va avoir une foule de questions. Parce que si, par exemple, c'est terminer l'activité, ou faire le travail sur le calque, ou prendre je ne sais quoi, eh ben c'est quoi? Il est où le calque? On n'a pas l'activité, c'est quoi la question 2? Et du coup, on perd finalement un temps monstre. Le temps qu'on voulait gagner en ayant la chose affichée au tableau, on le perd. Parce que finalement, ils ne comprennent pas pourquoi c'est là. Alors je me dis, il vaut peut-être mieux. Du coup, moi, je n'arrive pas à mettre les devoirs au début, sauf si c'est juste, à la limite, que le contrôle la semaine prochaine. Ils savent comment on révise ce qu'il faut regarder, donc du coup, ça, ils sauront, il n'y aura pas trop de questions. À part si ça sera sur 20 ou combien ça compte dans la moyenne. Ça peut être vite balayé. Mais le côté faire une activité vraiment. C'est très rare les moments où je pourrais l'écrire.
Et si tu n'as pas l'habitude aussi. Voilà. Parce que là, l'habitude, c'est donner les devoirs à la fin. Donc pour eux, s'ils avaient l'habitude de dire, on fera l'activité, mais qu'ils savent que l'activité, elle va arriver. Voilà. Je dirais, je ne poserais peut-être plus la question.
Oui, mais même quand tu prends le temps de leur dire, alors il faudra mettre l'habitude. Peut-être que, parce que quand je prends je prends des passés, puis je leur dis bien, voilà, l'activité, je vais vous la distribuer pendant l'heure, on va avancer jusqu'à tel stade, puis vous aurez la suite à faire à la maison. Ils sont quand même coucounés, on n'est même pas dans une situation de stress. Pourtant, ça doit être quand même vécu comme une situation de stress pour eux, parce que ils posent les questions.
Donc, oui, parce que je pense que c'est différent de l'ordinaire. Parce que si tu le faisais à chaque fois, en leur explicitant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pendant la séance ce sur quoi ça porte, ils le noteraient directement et puis ils attendraient les explications.
C'est une histoire de rituel.
Moi, je sais aussi que si je donne les devoirs pendant que j'en fais une activité, puis j'ai prévu, je ne pourrai pas pouvoir aller, donc je fais l'activité mentale en plein milieu. Si c'est par exemple l'ennemi, c'est le matin que c'est l'ennemi, certains. N'ayant pas de montre, etc., sont persuadés que c'est la fin du cours.
Hein. On va en parler avec Céline.
Et donc, je dis, attendez, c'est pas fini. Ah non, mais on va prendre les devoirs. Oui. Mais parce que l'habitude, je note les devoirs à la fin du cours, ce que je peux comprendre. Donc on dit non, c'est pas.
En primaire, on a une seule classe, et du coup, on peut installer ce rituel, mais là, avec plein de profs, ils font plein de façons de faire différentes. Mm-hmm. Et souvent, ça arrive en fin d'heure, du coup, ils ont cette habitude-là. Ouais.
Notre écueil à éviter, alors on peut choisir de mettre en début ou en fin d'heure, il y a peut-être des rituels installés, ça dépend de qui on est, mais il y aura peut-être cet écueil-là à éviter. Si c'est en fin d'heure, il faut garder à l'esprit que ça ne soit pas trop à l'arrache, quoi, trop à la fin. Oui. Parce que trop à la fin, ça pose certains problèmes.
Mais justement, quand tu donnes les devoirs comme ça en début d'heure, comment la fin de l'heure se passe? Est-ce que tu rappelles quand même qu'il y a des devoirs à faire pour le lendemain?
Parce que comment se passe question, parce que normalement, à la fin de la séance, j'ai explicité chaque point. Donc, du coup, c'est relativement clair et ils ont juste à ranger leurs affaires, partir.
D'accord.
Je vais m'arrêter là, mais dans ce passage qui est un peu long, il y a plein de choses, des choses qui sont abordées, qu'il n'est pas forcément évident de résoudre en tant que formateur tout de suite dans le vif de l'action. Ceci dit, qui sont parfois reprises sur un compte-rendu que je peux faire pour pas interrompre non plus les discussions parfois. Il est compliqué d'empêcher les échanges. Mais en tout cas, on voit que là, les collègues s'emparent du sujet des devoirs assez facilement. Et je termine juste avant, je te donne la parole, Patrick. Il y a un temps qui est fait, qui est pris à la fin. Il y a des collègues qui notent ce qui se dit, mais ils ont certaines missions. Notamment, il y en a un qui note les questions qui ont été soulevées ou les choses qui commencent à être abordées, mais qui ne seront pas abordées suffisamment, de manière à ce que moi je récupère ça à la fin et que je puisse prévoir le temps de formation après, parce que j'ai pas le temps de tout enregistrer. Donc, ce qui permet, à partir de là, il y a la question de l'apprentissage. Il y a la question, on a soulevé celle de la difficulté des élèves, mais comment on fait finalement, comment on repère déjà l'élève qui n'a pas bien noté ses devoirs, qui ensuite n'arrivera pas à les faire. Bon, ben ça, on sait que c'est une question sur laquelle on doit travailler, sur la question de l'agenda, noter ou pas les devoirs dans l'agenda. On n'a pas pris le temps de débattre là-dessus, mais est-ce qu'il faut absolument que nos élèves notent leurs devoirs dans l'agenda? Puis finalement, s'ils le notent, quel sens on donne à l'agenda? Pourquoi ils le font? Il y en a qui nous disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin, je note sur, il y a Surpronote, le logiciel sur lequel les profs sont censés noter les devoirs, mais tous les profs ne notent pas les devoirs. Du coup, comment on fait comprendre aux élèves que parfois, enfin voilà, toutes ces questions-là, elles sont abordées, tout n'est pas résolu, et ça veut dire qu'il y a maintenant d'autres objets, en tout cas ça dégage d'autres objets de travail à venir. Alors je vais aller un peu plus rapidement sur la deuxième formation, tout simplement parce qu'on n'a pas été filmé, donc j'ai pas de matériaux à vous proposer, je filme pas toutes mes formations. Là, c'était celle, je vous rappelle, pour ceux qui accompagnent l'aide aux devoirs. Donc là, on était sur quel problème on a quand on est en aide aux devoirs, et notamment le problème majeur, c'était comment on fait pour faire de l'aide aux devoirs du mieux possible, sachant que parfois on est en classe entière. Donc là, j'avais moins de monde que je pouvais aller filmer, et notamment, je trouve que c'est plus problématique d'aller filmer les jeunes assistants pédagogiques, parce que ils débutent, parce qu'ils sont encore plus en difficulté en aide aux devoirs que les enseignants. Alors j'ai quand même réussi à trouver une de mes collègues, Pauline, qui a accepté, elle, d'être filmée dans une séquence d'aide aux devoirs où elle était toute seule avec une classe de sixième entière, donc de 22 élèves. Et donc je l'ai filmée. Ensuite, j'ai organisé un entretien d'autoconfrontation simple qui, pour moi, avait un triple objectif. En même temps, un peu de recherche, on va dire, avec des guillemets, et puis en toute simplicité, hein, parce que je ne suis pas chercheuse, mais de recherche déjà, quel problème est là concrètement, et comment ça se passe l'aide aux devoirs, comment elle s'y est mise, comment elle fonctionne en aide aux devoirs. De formation aussi, parce que du coup, il y a à former les enseignants, mais formatrice en éducation prioritaire, c'est aussi former les autres personnes qui sont au contact avec les élèves. Et donc, il s'agissait aussi de la former sur l'aide aux devoirs et de montrer qu'il y a peut-être d'autres manières de faire possible. Et puis, de réflexion sur nos problèmes communs. Et j'étais à la fois collègue, quelque part, parce que puisque je fais aussi de l'aide aux devoirs et que j'ai le même problème qu'elle, malgré le fait que je sois enseignante, je rencontre aussi des difficultés sur l'accompagnement d'une classe entière, d'une autre sixième. Donc, du coup, ça simplifie aussi l'entretien d'autoconfrontation, parce que je me mets au même niveau et on va réfléchir, je vais dire nous, comment on pourrait faire pour que ça soit plus facile de travailler sur l'aide aux devoirs. Donc voilà, je vous ai remis, hein, pour moi, les trois postures complémentaires qui s'entrecroisent là dans ce genre de situation. Donc, avant le groupe d'échange de pratiques qui avait lieu, du coup, on a essayé de réfléchir pendant l'entretien d'autoconfrontation à la mise en place d'une autre manière de fonctionner. Alors, je vous montre là, parce que je n'ai que quelques images et que j'ai réutilisé pendant la formation. J'avais remarqué que la première fois quand je l'ai filmée, donc là, quand elle était seule en aide aux devoirs, elle avait organisé l'aide aux devoirs pour qu'il y ait le moins de bruit possible et puis pour que ça fonctionne du mieux possible, qu'elle ait une certaine maîtrise sur le groupe. En leur demandant au début, qu'est-ce que vous avez à faire? Les élèves répondent tous plus ou moins la même chose, et puis elle décide, on va travailler le français puisque ça lui semble prioritaire à elle de travailler le français. Donc là, ils étaient en train de réviser une leçon de français, de conjugaison, et sans expliquer aux élèves pourquoi il lui semblait que c'était prioritaire, elle le fait naturellement, on ne peut pas le lui reprocher, ils vont commencer à travailler en classe entière. Quelque part, ça faisait un peu refaire le cours à la place du prof. Elle essayait essayait de retrouver comment on conjuguait, etc. Et puis les élèves, il y en avait 4 qui étaient au tableau, ou 3 là, et puis les autres interagissaient, certains ayant sorti leurs affaires ou pas. Il y avait quand même 2 élèves ici, et puis un petit groupe de garçons là, qui eux avaient sont des élèves qui n'ont aucune difficulté, et donc font leur travail sans problème, et là, n'avaient de toute façon pas envie de travailler en aide aux devoirs, donc ou alors travailler en autonomie sur d'autres choses, savent s'organiser, ou alors les filles, là, elles faisaient du coloriage, parce que l'aide aux devoirs, elles préfèrent faire à la maison. Donc, on avait repéré que ça pouvait poser problème, enfin moi, dans ce que j'avais en tête, dans les travaux, les lectures que j'avais faites, c'était embêtant si l'aide aux devoirs revenait à refaire le cours à la place du prof, et on voulait aussi travailler pas mal dans l'aide aux devoirs sur l'autonomie des élèves, et que là, l'autonomie des élèves, ceux qui étaient déjà autonomes avant dans leurs devoirs, les faisaient ou faisaient autre chose, mais pour les autres, il n'y avait pas vraiment d'autonomie. Alors après, ils étaient bien sympas, hein, ils participaient, il n'y avait pas de souci. Donc on a essayé d'envisager quelque chose de plus confortable, sachant que pour Pauline, c'était, quand je l'interrogeais aussi sur le degré de confort qu'elle a aussi dans cette situation-là, elle trouvait que c'était tendu et difficile. Donc elle y mettait beaucoup d'énergie, même si ça transparaît pas comme ça, hein, c'est l'intérêt de l'entretien d'autoconfrontation, c'est assez épuisant et elle en éprouvait pas une grande satisfaction en sortant. Donc on a réfléchi et c'est là qu'est venue l'idée que moi, sur mes heures de prof référente, il y a une partie des heures que j'allais consacrer à l'accompagnement, à la co-intervention avec elle sur l'aide aux devoirs, pour pas laisser, parce que moi ça me pose un problème moral aussi, ou plutôt éthique, sur un AP, normalement, n'est pas censé avoir un groupe d'élèves seul en face de lui. Je pense que c'est plus aux enseignants de s'emparer normalement de ces questions-là et de les accompagner et de les aider là-dessus. Donc, on s'est mis à deux. Donc, c'est pour ça que sur la deuxième image, on a expérimenté une nouvelle manière de travailler en organisant autrement les choses et notamment en prévoyant que les élèves vont, et c'est la stratégie qu'ils mettaient en place à chaque fois, venir sans affaires à travailler, ou dire que de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à faire et la plupart n'ont du coup rien à faire parce qu'ils n'ont pas amené par exemple les affaires de français alors qu'il y avait un contrôle à réviser. Donc pour pallier à ça, on a réfléchi à faire de l'aide aux devoirs comme une discipline dans laquelle les élèves, avant d'aller à l'aide aux devoirs, doivent écrire dans leur agenda pour tel jour j'ai aide aux devoirs, voilà les matières que je décide de travailler. Ils devaient se donner 2 matières, 2 choses sur lesquelles, c'est donc à eux de décider de la priorité, et c'est pas forcément les mêmes que leurs camarades, et ensuite écrire voilà les affaires que j'apporte. Et on leur a dit, la prochaine fois en aide aux devoirs, on vérifiera vos agendas, on vérifiera que vous avez prévu du travail individuellement à faire en aide aux devoirs. Donc c'est un peu coercitif, et en même temps on s'est dit que ça permettrait peut-être de les engager davantage là-dessus. Donc ça a plutôt bien marché, et la fois d'après, donc on les voit au travail, et donc là j'ai entouré avec des couleurs différentes pour montrer les différentes postures d'élèves qui sont apparues. En jaune, des élèves qui travaillent en autonomie à leur place ou seuls et qui s'aident entre eux. C'est des élèves notamment qui n'ont pas trop de difficultés, donc en maths, français, techno. On s'est dit aussi, chose importante, qu'il y a des élèves sur lesquels on n'a pas besoin d'aller les aider et qui savent très bien faire leurs devoirs, donc on perd pas de temps avec eux à la rigueur, mais on va se concentrer sur d'autres élèves. Et que du coup, quand on a un groupe entier, on n'aide pas tout le monde. Et il y en a certains, c'est juste le cadre qui est donné, mais ils travailleront tout seuls parce que de toute façon, ils savent le faire. On a des élèves qui travaillent en autonomie au tableau, c'est-à-dire que là, c'était Pauline qui avait lancé le travail, leur a donné les feutres, etc., a regardé ce qu'ils voulaient travailler, et ils avaient la consigne de travailler en chuchotant pour pas faire trop de bruit dans le groupe, mais ils avaient envie de faire un peu comme jouer à la maîtresse, et du coup, ça leur permettait de bosser leurs leçons, nous d'entendre un peu ce qui se passe aussi, mais elles bossent ensemble. Aussi, c'est des élèves qui n'ont pas non plus de grosses difficultés. Les élèves sans devoir, on leur a demandé aussi, et là on a fait un travail avec les collègues de français notamment, on a demandé que les élèves, s'ils viennent sans travail à faire, qu'ils aient au moins une lecture, c'est-à-dire qu'ils aient au moins un livre dans leur sac tout le temps, et que si on nous dit, moi j'ai pas de travail parce que j'ai déjà fait, dans ces cas-là, tu lis. Et tu lis, notamment les collègues de français se sont engagés à donner davantage de lecture à leurs élèves, et donc on a des séries de livres au collège, et à leur permettre de les avoir dans leur cartable. Ce qui permet aussi de gérer l'élève qui vient systématiquement sans devoir et sur lequel on a encore du mal à avoir de prise, il a obligation quelque part de prendre son livre, de s'isoler et de lire silencieusement, parce que on n'arrive pas à engager encore tout le monde non plus là-dessus. Donc de toute façon, il faut bien faire quelque chose de cela. Donc il y en a qui lisent. Et notamment lui, il avait amené un livre. Il y a un autre élève là sur la gauche qui n'est pas sur la photo aussi. Il y a des élèves qui vont recevoir de l'aide à la demande, très ponctuellement. Là, par exemple, certains avaient un DM de maths. Et il y avait un exercice en français à faire. Et puis, il y a les élèves avec lesquels, et ça c'était suite au conseil de classe, j'avais repris la liste des élèves. Comme on ne les connaît pas, ça pose problème aussi en aide au devoir. C'est pas des élèves que moi j'ai en face de moi en classe. Donc je ne sais pas quelles sont leurs difficultés et je ne sais pas lesquelles je dois faire travailler davantage. Donc du coup, je suis allée en conseil de classe des différentes sixièmes pour lister les élèves sur lesquels il va falloir qu'on consacre davantage notre attention et pour lesquels les enseignants avaient marqué ne fait pas son travail personnel. Les devoirs sont pas faits quand ça apparaît dans les bulletins. Donc là, ceux-là, on a une liste d'élèves qui est communiquée aussi aux assistants pédagogiques. C'est en gros, en général, 3-4 élèves par classe, pas plus, qui vont, eux, avoir plus d'aide encore. Le DM de maths, on a essayé de le travailler beaucoup plus, de manière beaucoup plus serrée. Voilà. Et puis, il y a des élèves, quand même, encore, qui on peut travailler, qui ont échappé à notre attention aussi. C'est pas parfait. Et quand on y pense, après, on se rend compte qu'au bout de l'heure, il y en a qui n'avaient pas fait grand-chose non plus. Mais ce système-là, qui a été travaillé en formation après et réfléchi avec les collègues et notamment les assistants d'éducation, donne un peu plus satisfaction, même s'il est encore certainement amélioré. Voilà, donc pareil, j'avais fait un descriptif de la formation que je pourrais vous communiquer si ça vous intéresse. Voilà. Merci de votre attention.